milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Penaï Traoré.
Bonjour, bienvenue à tous. Plus de 10 millions de personnes ont déjà entrepris des recherches sur l'histoire de leur famille selon le salon de la généalogie. Elle cartonne donc. La généalogie est devenue le troisième loisir en France après le bricolage et le jardinage. La multiplication des outils numériques et des archives en ligne favorise la recherche généalogique au point que des dizaines de logiciels et des sites spécialisés ont vu le jour, comme Généanet, le plus gros site européen de généalogie. Quant à vous, les voisins et les voisines, avez-vous déjà effectué des recherches sur vos ancêtres? Pourquoi et comment? Venez nous raconter tout ça. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Et sur WhatsApp, c'est aussi possible en nous laissant vos messages. Nous écouterons en fin d'émission un reportage d'Inès Edel Garcia sur les Pics d'Or, une cérémonie qui vise à récompenser les pires dispositifs urbains anti-SDF à Paris. Et pour commencer, je vous lis quelques messages de nos éditeurs sur la généalogie. Josué de Kinshasa en RDC, c'est fun quand les parents commencent leurs explications. Puis à un moment, certains nous disent, ça devient compliqué du genre, tu vois celui qui est venu l'autre fois, c'est le fils de la tante avec qui nous sommes sur la photo. Maintenant, son frère, c'est le cousin de papa. Et ça n'en finit jamais. Toujours en RDC, Christian de Bukavu nous dit, ici en Afrique, c'est difficile car nos ancêtres n'avaient pas d'écriture et le bouche à oreille est quand même incertain. Peu ont les noms des arrière-grands-parents. Abderrahman de Bobo Dioulasso au Burkina Faso, pour lui, en Afrique, les grands-parents sont des livres de recherche généalogique. C'est eux qui vous diront qui vous êtes, qui sont vos descendants, donc pas besoin de chercher. Et Lydie de Port-au-Prince en Haïti, j'ai rencontré un blanc américain qui porte le même nom de famille que moi. Je lui ai demandé l'origine de son nom et il m'a répondu que son arrière-grand-père était français. J'en déduis donc que je dois avoir des origines françaises, ce qui ne serait pas surprenant car Haïti est colonisé.
7 milliards de voisins, de voisines, 7 milliards d'êtres humains, tous identiques, tous différents, appelés à vivre sur une toute petite planète, 7 milliards de frères et de sœurs.
Pour parler tout de suite de ce sujet, la généalogie, nous recevons en studio deux invités. Marie-Odile Merniac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes généalogiste et co-organisatrice du Salon de la généalogie. Jacques Lemarois, bonjour.
Bonjour.
Président de Généanet, le plus gros site européen de généalogie. Et nous aurons notre troisième invité au téléphone tout à l'heure depuis Dakar au Sénégal, Lamane Baye, ancien chercheur en histoire à l'université Cheikh Diop de Dakar. Et il est aussi griot. Alors, 7 milliards de voisins et 7 milliards d'individus référencés sur le site Généanet, 4 millions de membres, 1 250 000 arbres généalogiques. Pourquoi ce besoin d'aller chercher ses origines?
Mais il y a un besoin, de, surtout avec les migrations que l'on trouve partout, de retrouver un peu ses racines. Et quand on sait d'où on vient, on est plus confortable pour aller dans le futur.
Et oui, c'est quelque chose aussi de très ludique, donc je crois que ça permet à la fois de s'amuser et puis de découvrir les liens. On rencontre à une fête de famille, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le cousin, le fils de la tante, de la sœur, etc. On ne s'y retrouve plus et ça permet de mettre un petit peu d'ordre et puis d'animer un peu les réunions familiales et de mémoriser aussi des souvenirs des anciens et ça c'est précieux. Au Soudan, enfin, les personnes que vous avez citées n'avaient pas forcément la mémoire familiale très longue, mais au Soudan, on considère dans certaines ethnies qu'on est adulte seulement si on sait réciter 10 générations. Je crois qu'on est tous enfants là. On n'a pas encore atteint l'âge adulte.
On ne passerait pas le test là. Alors, il y a des millions de personnes quand même qui cherchent à savoir d'où elles viennent. D'où vient ce besoin soudain de vouloir savoir les choses, nos ancêtres et tout ça?
Alors, comme le dit Marie-Odile, c'est aussi un hobby. C'est-à-dire que souvent, quand nos parents commencent à décéder, il y a un besoin de se reconnecter un peu à cette mémoire familiale. Et ça devient rapidement un passe-temps, un hobby dévorant. Il faut savoir qu'à chaque fois on multiplie le nombre d'ancêtres à chaque génération. On a deux parents, quatre arrière-grands-parents, 8 arrière-grands-parents et ça, on peut avoir 30 000 ancêtres à 15 générations.
Oui, ça monte très très vite. Donc et Généanet, c'est un merveilleux outil pour précisément retrouver des cousins. Oui. Parce qu'on peut faire des liens très vite à des branches même très éloignées.
Et aujourd'hui, quel est l'intérêt de la généalogie, à part le côté loisir? Quel est l'intérêt aujourd'hui?
Le côté affectif, quand même. Je pense que ça compte beaucoup d'avoir en soi, de porter un petit peu l'histoire de sa famille. Et puis, ça rend aussi très optimiste. Parce que je trouve qu'on découvre, quand on fait de la généalogie, qu'on a dans le passé des gens qui ont survécu à tout un tas de catastrophes, qui ont connu des situations bien pires que les nôtres. Ça donne un peu une leçon de vie pour le futur, pour soi-même. Après tout, on n'est pas si mal aujourd'hui que certains de nos grands-parents ou arrière-grands-parents l'ont été. Et puis, c'est aussi une belle leçon de tolérance, parce que dans son arbre, on trouve de tout. On va trouver tous les parcours politiques, on va trouver des quantités de nationalités différentes.
Des informations qu'on ne soupçonnait pas.
Des informations qu'on ne connaissait pas. Et plus l'arbre s'élargit, plus il devient, je dirais, porteur de tolérance aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est bien. Et puis, quand on l'enseigne aux enfants, aux petits, ça leur donne envie d'interroger leurs grands-parents. Et ça, c'est quelque chose qui compte avant que les grands-parents n'aient disparu. Hein, c'est qu'ils puissent transmettre quelque chose de la mémoire, c'est aussi important pour la famille et pour les petits qui vont devenir des grands, plus ouverts, je pense, au monde avec la généalogie.
Jacques Marois, comment doit-on s'y prendre pour faire sa généalogie? Moi, par exemple, je veux commencer. Comment je fais?
Alors, la première étape qui est urgente, c'est d'interroger votre famille et notamment les personnes âgées avant qu'elles ne disparaissent. Parce qu'une personne âgée qui meurt, c'est tout un pan de la mémoire familiale qui disparaît. Ça, c'est la première étape qui est très importante et il faut la faire tout de suite.
Marie-Odile Merniac, oui. J'imagine, aujourd'hui, il y a des archives. Est-ce que les gens, ils viennent aujourd'hui aller consulter les archives physiques?
Alors, les archives, il y a des modes de consultation différentes selon chaque pays. En général, grosso modo, en dessous de 100 ans, la consultation n'est pas facile. D'ailleurs, vous vous mettez aussi sur les sites pour protéger un petit peu les contemporains, tout ce qui est après 1914, en général, n'est pas en accès libre. Au-delà, on peut interroger les archives librement, mais ça dépend des pays. Alors, pour le Sénégal, par exemple, les archives nationales d'outre-mer viennent de mettre en ligne l'état civil, les ANOM, jusqu'en 1917.
C'était fait la semaine dernière pour le Sénégal. On aura tout à l'heure quelqu'un, notre troisième invité au téléphone, il nous parlera justement de comment il procède en tant que griot pour travailler sur la généalogie. Oui, allez-y.
Oui, alors pour les archives récentes, on peut quand même demander les actes directement au niveau des mairies. En France, notamment, il y a des systèmes très simples pour cela. Et il y a aussi une partie des archives qui sont en ligne. Il y a toutes les bases de l'INSEE, de tous les décès de France de 1970 jusqu'à maintenant, qui est accessible maintenant librement.
Et l'intérêt aujourd'hui, beaucoup de gens ont développé leur intérêt pour la généalogie à cause du numérique. Grâce au numérique, la multiplication des outils de recherche, les logiciels. Aujourd'hui également, on sait qu'aux États-Unis, les Mormons ont scanné la majeure partie des états civils du monde entier dans le but de, comme ils disent, de baptiser les morts. Mais voilà, c'est une bibliothèque gigantesque qui a été créée. Ils ont même conclu des accords avec certains pays. Vous êtes au courant de ça?
Oui, tout à fait. Alors, il y a 20-30 ans, il fallait aller dans les mairies, dans les archives. Donc ça prenait du temps. Maintenant, avec Internet, on arrive à accéder à énormément d'archives, et notamment grâce au travail des Mormons sur un certain nombre de pays.
Ou au travail de Généanet ou d'autres bases de données. Les archives départementales, par exemple, on accède librement en France aux actes anciens. Et Family Search, les Mormons, justement, ont commencé à enregistrer les mémoires audio, à faire des enregistrements audio des mémoires des griots en Afrique, pour que ça ne se perde pas si eux n'arrivent pas à trouver de successeur.
Mais pourquoi les Mormons s'intéressent à ces genres d'informations? On sait quand même que c'est un peu religieux ou sectaire. Pourquoi ils s'intéressent à ce genre d'informations, de créer une grande bibliothèque avec toutes ces données?
Alors, dans leur religion, ils baptisent tous leurs ancêtres. Donc, pour pouvoir baptiser leurs ancêtres, il faut qu'ils fassent des recherches généalogiques. Et donc, c'est pour ça qu'ils font.
Mais tout le monde n'est pas mormon.
Non, mais ils baptisent
tous
leurs ancêtres. Donc leurs ancêtres n'étaient pas forcément mormons. Effectivement, oui, leurs ancêtres étaient catholiques, mais ils les baptisent a posteriori.
Voilà, si quelqu'un est mormon, il a le droit, au cours d'une cérémonie religieuse, de baptiser dans sa foi tous les défunts de son arbre généalogique. Donc plus il a retrouvé un arbre généalogique vaste dans le monde entier, plus il peut baptiser de personnes, sachant qu'ils disent que les défunts ont le droit ou pas d'accepter le baptême qu'on leur propose comme ça depuis le monde des vivants.
Et justement, c'est grâce au numérique que les Mormons se sont intéressés aussi à d'autres pays, d'aller chercher, de scanner et tout ça. Qu'est-ce que le numérique a changé dans la recherche généalogique, Jean-Jacques Lemarois?
Alors, ça fait longtemps que les Mormons, avant, en fait, ils faisaient des microfilms de toutes les archives. C'est-à-dire en France, dans les années 60, ils ont microfilmé tout l'état civil et les registres paroissiaux.
Une moitié de la France.
Ouais, une partie, qui ont servi de base pour les archives départementales pour numériser souvent les archives. Et depuis un certain nombre d'années, ils sont passés au numérique, qui a l'intérêt de pouvoir diffuser massivement sur Internet, sur leur site, toutes ces archives et les rendre beaucoup plus accessibles. Et enfin, la troisième étape, c'est au-delà de numériser les images, c'est d'indexer, c'est pour retrouver facilement les noms. Et ils font aussi un travail considérable d'indexation. Ils sont à plusieurs milliards de données indexées. Et donc, tout ça rend beaucoup plus facilement accessible toutes ces archives.
Et Marie-Odile Merniak, le numérique a quand même changé la façon de procéder, l'accès à toutes ces données.
Ah oui, complètement, puisqu'avant, il fallait se déplacer dans les mairies ou aux archives départementales. À partir d'un clic, vous n'êtes pas obligé de dire à votre famille, les prochaines vacances, on les passe dans les archives départementales où on reste de 9h à 16h30 ou 17h. Là, si le reste de la famille n'est pas passionné, on peut soit travailler le soir, travailler le week-end. On a une insomnie, hop, on remonte 2 ou 3 branches, c'est plus facile.
Oui, donc alors, on n'a pas tout en un clic, hein, quand même. Il faut,
oui, mais qu'est-ce qu'on n'a pas, par exemple, en un clic?
Alors, il y a le problème de la barrière des 100 ans, c'est-à-dire que le début de sa généalogie, il faut le faire avec la mémoire familiale, avec les documents familiaux. Quand on a passé la barrière des 100 ans des archives en ligne, là, on peut travailler sur les archives. Mais ensuite, il y a des endroits où les archives n'existent pas. Soit elles ont été détruites, soit elles n'existent pas, parce que c'est dans les zones de tradition orale. Et l'autre biais, c'est de trouver des cousins qui ont même fait leur arbre généalogique. Donc, sur Généanet, on a plus de 1,4 milliard d'individus dans les arbres généalogiques. Donc, plus vous remontez, plus vous avez de chances de trouver les ancêtres d'un cousin généalogiste qui a déjà fait le travail.
Une information disponible.
Tout à fait. Votre arbre a déjà été fait en grande partie. Si c'est un cousin sud-germain qui a déjà fait son arbre, toute une partie de votre arbre a déjà été fait. Il faut que vous complétiez le reste. Mais vous ne pouvez pas tout avoir. Vous pouvez avoir beaucoup de choses. Tout n'est pas accessible directement. Toute la population mondiale n'est pas encore sur les arbres généalogiques de Généanet ou d'autres.
Mais toutes ces informations qu'on retrouve sur les sites Internet aujourd'hui, sont-elles des informations fiables?
Alors, si ce sont des informations qui sont les actes eux-mêmes, des archives en ligne, bien sûr, si ce sont des arbres généalogiques déposés par des gens qui ont fait leur arbre, il faut toujours vérifier, parce qu'il y a des gens qui sont parfaitement fiables, qui sont des enquêteurs généalogiques parfaits, qui vérifient chaque information avant de la valider, et puis d'autres qui ont envie de descendre de Cléopâtre, et puis voilà, ils vont un peu forcer l'histoire pour orienter leur arbre dans le sens qui les arrange. Donc il faut toujours un petit peu vérifier.
Aujourd'hui, quel est le profil des gens qui souhaitent avoir des informations sur leurs ancêtres? Par exemple, on savait qu'avant, ceux qui cherchaient, qui faisaient de la recherche dans la généalogie, c'était peut-être la moyenne d'âge 70 ans. Aujourd'hui, ça a tendance
42.
À... 42. Voilà.
42.
Aujourd'hui, ça a tendance à, baisser. Voilà, à baisser jusqu'à 42 ans. Aujourd'hui, c'est quoi le profil des gens qui viennent en chercher?
Alors, il y a aussi des jeunes, des enfants, mais c'est plus rare. Oui. Mais c'est typiquement, c'est plutôt des personnes...
42, c'est une moyenne, c'est ça, on trouve des enfants.
Mais c'est clair que c'est un loisir de personnes plus âgées. Il y a plus de personnes, il y a moins de jeunes que de personnes plus âgées, on va dire.
En fait, ça demande beaucoup de temps. Donc, du temps, on en a beaucoup quand on est à la retraite. Et en plus, c'est un loisir qui peut se faire quelle que soit sa forme physique, oui. Un peu par tous les temps. Et on peut le faire aussi beaucoup quand on est encore jeune, lycéen, étudiant. Donc moi, j'avais commencé à 12 ans. Je connais beaucoup de gens qui ont commencé quand ils étaient aussi enfants ou adolescents au lycée, au collège, et qui arrêtent après, une fois qu'ils entrent dans la vie active, qu'ils ont les enfants, qu'ils ont un conjoint qui leur dit qu'ils ont plutôt envie de faire autre chose que de regarder des archives. Voilà. Ça, et on reprend après à la retraite. Et souvent, parce qu'il y a aussi la disparition des parents âgés qui est un déclencheur qui et accélère l'envie de chercher.
L'envie d'aller chercher.
Parce qu'on classe les papiers, on retrouve des photos anciennes, on retrouve des lettres qu'ils ont écrites et on se dit j'aurais dû les questionner, j'aurais dû les interroger et voilà, on a envie de s'y mettre.
Et justement, sur tout ça, la généalogie sert aussi à remonter l'histoire, à tracer par exemple le parcours d'un soldat de la guerre 14-18 ou pour des gens qui veulent savoir si leurs grands-parents ont été retenus dans les geôles allemandes par exemple.
Oui, tout à fait. Avec la généalogie, on touche à l'histoire et c'est... Au-delà de collectionner les noms et les prénoms et les filiations, ce qui est intéressant, c'est de connaître la vie des gens. Et avec des documents en ligne, on commence à voir les registres de matricule, on commence à savoir un peu le parcours de personnes. Quand on monte plus loin, il y a les registres de notaires aussi qui permettent de connaître les successions, les testaments, les inventaires prédécès.
On peut même retrouver la couleur de la robe des aïeuls en 1720 ou 1680.
Quand même. Et vous-même, Jacques Lemarois, vous avez pu remonter à vos ancêtres jusqu'à un pape.
Oui, alors j'ai la chance ou la malchance de descendre d'un pape qui est Alexandre Borgia.
Et comment vous avez pu remonter jusqu'à tout ça? Combien de générations?
Ben en fait, dès qu'on se raccroche à des branches, on arrive à se raccrocher à une branche noble, à ce moment-là, ça va très vite, ou royale. Et donc là, c'est par une branche du massif central que je suis remonté jusqu'à à Alexandre Borgia et son fils qui a donné le modèle de Machiavel.
Vous avez pu retrouver du coup tous vos ancêtres. Vous êtes remonté à, vous êtes arrivé ou pas encore?
J'ai la chance d'avoir beaucoup d'ancêtres, donc c'est pour ça que je peux pas devenir mormon parce que j'ai trop d'ancêtres. C'est-à-dire que je participe à un arbre. Alors moi, je participe à un arbre collaboratif. C'est-à-dire que au lieu de faire mon arbre tout seul dans mon coin, je participe à un arbre où on est 100 ou 200 personnes à travailler sur le même arbre.
Ça veut dire que ça peut se faire par groupe aussi.
Et tout à fait. Donc sur Généanet, en fait, tout est fait pour qu'on puisse travailler ensemble sur le même arbre. Donc vous pouvez inviter vos cousins ou des gens qui sont intéressés par une région. Donc je participe aussi à un arbre qui est centré sur la Normandie, qui s'appelle Généanet 50 Com. Et un autre arbre auquel je participe, il y a plus de 2 millions de personnes dans l'arbre. Et donc, ce qui fait que les autres travaillent pour moi. C'est-à-dire que sur tous mes ancêtres, je n'ai pas eu à les chercher tous par moi-même.
C'est venu par d'autres personnes.
D'autres font aussi le travail. Donc, il y a ce côté coopératif. Dans le milieu généalogique, c'est très intéressant parce que les gens, il y a beaucoup d'entraide et de coopération.
Ça permet d'aller plus vite, parfois.
Tout à fait. C'est-à-dire que si vous êtes coincé sur un ancêtre que vous n'avez pas trouvé, vous avez d'autres gens qui peuvent vous aider. Sur les forums, dans des associations aussi qui se chargent de vous aider pour les retrouver un acte pour vous dans un endroit. Donc il y a ce côté entraide qui est très important.
Avant de continuer, je vous propose une petite pause.
Trois sœurs, pas de frères, heureusement Dieu a créé les amis. Il y a des choses que j'aurais pas voulu comprendre en grandissant. Tout le monde est zinzin dans ma famille, que des embrouilles dans ma famille. J'ai pas vu ma grande sœur depuis 10 ans. Grand-père a détruit ma mère et ma grand-mère avant elle. J'ai jamais eu d'amour pour lui, j'ai toujours fait semblant à Noël. Oh. Grand-mère était loin d'être parfaite, ouais. Mais sans cette famille malsaine, elle serait peut-être jamais morte d'un cancer. Et j'aurais peut-être pu la connaître un peu plus. Oh. Guidé par ses croyances jusqu'au bout du monde pour le sauver naïvement en rentrant. Quand la douane lui a demandé de présenter son identité, elle a souri tout en déchirant ses papiers. Les gens normaux se sont bien dans la machine. Grand-mère n'y a jamais trouvé sa place. Elle marchait nue en criant des mots magiques. Ils disent qu'elle était folle, sans blague. C'est beau la folie,
j'ai crié.
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 Ma grand-mère était folle.
folle, sans blague. Ma tête est pleine de courant d'air.
L'homme pâle qui chantait Beau la folie. Et tout de suite, nous allons prendre notre troisième invité depuis Dakar, Laman Baye, ancien chercheur en histoire à l'université Cheikh Diop. Il est aussi griot. Bonjour Laman Baye.
Oui, bonjour madame.
Bienvenue dans cette émission.
Merci.
Et quelle place occupe la généalogie dans le travail du griot, vous qui êtes griot?
Mais écoutez, je voudrais saluer les auditeurs de 7 milliards de voisins et saluer tous ceux qui sont sur ce plateau.
Oui, nos deux invités.
Et dire tout de suite que la généalogie est un fondement dans la vie du griot. Dans ce qu'on appelle nos épopées, qui sont des récits historiques qui sont le patrimoine des griots,
oui.
La généalogie est un fondement. Et c'est la raison pour laquelle la généalogie est au fond, n'est-ce pas, de l'épopée et des arts du griot d'une manière générale.
Oui.
Et que connaître la généalogie de quelqu'un, c'est le connaître personnellement et profondément.
Et l'épopée, c'est le récit de la vie d'un personnage ou d'un peuple. C'est bien cela?
Mais c'est exactement l'épopée, c'est la capacité d'agir d'un peuple en un moment donné de l'histoire.
Et c'est une sorte de généalogie?
Oui, bien sûr, parce que dans ce qu'on appelle par exemple les épopées dynastiques, qui sont appelés également les épopées royales, la généalogie est toujours première. Nous avons la généalogie, nous avons la naissance extraordinaire, nous avons l'enfance difficile, l'exil initiation, l'intronisation ou la mort. Donc la généalogie est toujours les fondamentaux dans l'étude épique, n'est-ce pas, d'un peuple ou d'un personnage donné.
Marie-Odile Merniak, le Sénégal vient d'être ajouté sur les archives.
En ligne, c'est accessible en ligne depuis la semaine dernière sur les archives nationales.
Laman Baye, vous étiez au courant de cette information?
Oui, je travaille souvent avec les spécialistes donc, de ces questions archivistiques, parce que n'oubliez pas aussi que la généalogie est une science qui est auxiliaire de l'histoire.
Oui.
Et qui est auxiliaire également de la tradition orale, d'une manière générale. Je crois que donc c'est un élément extrêmement important à un moment où les Sénégalais aussi aimeraient véritablement connaître leurs origines et les gens qui ont été, n'est-ce pas, premiers dans les fondements de leur histoire.
Jacques Lemarois, vous avez quelque chose à dire par rapport à le griot qui fait aussi de la généalogie. Vous avez quelque chose à dire par rapport à ça?
Oui. Alors, moi, j'avais rencontré une fois Omar Sy, oui. Dont le grand-père est griot, et avait mémorisé les généalogies, la sienne bien sûr, mais les généalogies de tous les habitants de son quartier sur 5 générations. On n'était pas aux 10 générations qu'on évoquait tout à l'heure, mais sur 5 générations. Et le plus beau compliment que m'ait fait Omar Sy à ce moment-là, c'est qu'il m'a dit que j'étais aussi une griotte.
Et Laman Baye, les documents qui ont été publiés en ligne concernant le Sénégal, est-ce que ça va favoriser un peu le travail généalogique dans votre pays?
Oui, ça favorise effectivement le travail généalogique parce qu'aujourd'hui, le griot traditionnel est devenu aujourd'hui un intellectuel. Parce que moi qui vous parle, j'ai fait ma thèse sur les griots. Donc, ça m'aide beaucoup de travailler en ligne, de travailler sur WhatsApp, de travailler sur Instagram et autres pour partager des informations, mais également pour établir des arbres généalogiques.
Et quels sont aujourd'hui les changements entre le griot d'hier et celui d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme les outils, comme outils numériques?
Les changements sont notoires, parce que le griot d'hier, c'est le griot de la cour royale. C'est ce griot que vous voyez dans Sundiata ou l'épopée Mandeng. C'est ce griot que vous voyez qui est chanté dans les 44 articles de la charte du Kourou-Khan Fougan de 1236.
Oui.
Mais c'est également ce griot-là qui chante Daba Keïta, le père de Modibo Keïta, lors de sa disparition et qui a parlé pendant toute une semaine.
Tout ça fait partie de l'épopée Mandeng, la charte du Kourou-Khan Fougan, qui est une sorte de constitution.
Mais bien sûr, ça fait partie de la charte Mandeng qui est considérée aujourd'hui comme l'une des premières constitutions en Afrique. 44 articles qui régissent la vie, sur le droit de la vie, sur le respect aux femmes, sur le cousinage à plaisanterie, bref, sur l'organisation sociale, politique, économique, n'est-ce pas, de la société pendant ce 13e siècle.
J'imagine que toute cette histoire est numérisée. Qu'est-ce que les outils numériques de communication ont changé dans votre mode de travail?
Il faut dire que dans le mode de travail, c'est peut-être le face-à-face. C'est peut-être l'épopée, ce qu'on appelle l'épopée vivante. C'est la capture de la parole, parce que le griot est dépositaire, transmetteur. Je me souviens quand, quel est Monson Diabaté, qui est l'oncle de Massamanka Diabaté, qui a beaucoup travaillé sur l'épopée mandingue.
Ce sont des historiens, des griots.
Massamanka Diabaté a traduit et a transcrit son œuvre. Son oncle a pris le livre et lui a dit, voici des paroles qui ne respirent plus. Je crois qu'au-delà de la chaleur humaine, au-delà de l'épopée vivante, l'outil numérique aide véritablement dans la transmission, parce que le griot est dépositaire, transmetteur. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la capture de cette parole, dans véritablement le partage de l'information avec la modernisation, avec la mondialisation, l'outil informatique est devenu aujourd'hui un élément approprié pour partager, pour enseigner, pour diffuser, etc.
Est-ce que cela favorise aussi l'intérêt des jeunes pour la recherche de leurs racines?
Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on voit nos jeunes s'intéresser à leurs origines, à leur histoire. On voit aujourd'hui la prolifération des messages sur WhatsApp, des groupes. Aujourd'hui, au Sénégal, on a ce qu'on appelle les rencontres familiales, où il y a un griot de la famille, un griot attitré, qui chante les épopées, qui essaie de dire en fait le lien qui unit les différents membres de la communauté. Et je crois que sur ce plan-là, il y a un intérêt quand même à véritablement approfondir ces questions-là.
Marie-Odile Merniak, vous avez quelque chose à ajouter rapidement par rapport à l'intervention de notre invité du Sénégal?
Effectivement, c'est quelque chose qui intéresse tous les continents et toutes les familles, et que cette façon maintenant de mettre par écrit, de mettre ou d'enregistrer les voix des griots avant qu'elles ne puissent s'éteindre, c'est bien. C'est vraiment
Jacques
bien.
Le Marois, est-ce que sur le site Génianet, il y a quand même, on trouve un peu des branches africaines?
Ah oui, bah, on est tous cousins. Hein.
on est tous voisins.
On est tous voisins et tous cousins. Donc effectivement, oui, c'est... Moi-même, j'ai des ancêtres d'Haïti et je dois avoir des cousins à Haïti.
Merci beaucoup, Lamane Baye.
Oui, je voudrais ajouter simplement...
Oui, rapidement.
Que la généalogie n'est pas simplement la liste des membres d'une famille, mais c'est aussi quelque chose qui peut quand même booster, qui peut quand même pousser. Comme nous l'avons vécu dans la tradition, lors de l'initiation, lors des combats, des guerres, généralement, le griot qui est là, lorsqu'il récite une généalogie, il insuffle un sang nouveau, il fait une injonction qui pousse l'individu à se surpasser. Et c'est ce à quoi nous avons assisté lors de la veille de la bataille de Kirina, entre Soumangourou Kanté et Sundiata.
Et Sundiata Keïta, toujours l'histoire de l'empire du Mandingue. Merci d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes griot et ancien chercheur en histoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous donnons la parole à nos auditeurs. Nous avons Della de Lomé au Togo. Bonjour Della.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Raconte-nous, vous avez cherché à savoir un peu d'où vous venez, vos origines.
Bien sûr. C'est parti du fait que moi, je n'ai pas connu mon père très tôt. Et ensuite, quand je l'ai connu, les histoires qui se racontaient sur lui et sur son père m'ont poussé à mieux connaître ma famille du côté paternel.
Et comment vous avez procédé?
Du côté maternel. Voilà. Tout d'abord, je posais des questions à ceux qui en savaient. Mes tantes, mes oncles, mes cousins. Et petit à petit, on a remonté la génération et je me suis aperçu que notre nom de famille a commencé il y a 5 générations. Il y avait un autre nom, en fait, que je n'aurais jamais su.
Vous êtes remonté jusqu'à 5 générations.
Voilà. On a toujours eu ce nom-là. C'était un autre nom avant et c'était un sobriquet qu'un de nos ancêtres avait. Il était commerçant et qu'il disait souvent quand il faisait des affaires et qu'il lui est resté.
Vous avez...
Et qui est devenu notre nom de famille d'aujourd'hui.
Et c'est quoi votre nom de famille d'aujourd'hui?
Voilà. Donc je trouve que l'arbre généalogique est un pont entre l'invisible et le visible, ceux qui sont partis et nous, ok,
oui.
et aussi un pont entre les vivants. Parce et que l'âme générale vous permet d'avoir une racine et de pouvoir avoir votre ramification dans la société.
Et ça vous donne aussi une identité, vous aviez dit.
Oui, une identité, ça c'est très important. Et parce que aujourd'hui, si les gens vendent des âmes généralistes, prestigieux, c'est pour ça. Parce que ça vous permet d'avoir une certaine identité, de vous affirmer dans la société. Mais il y a aussi un aspect foncier qu'il ne faut pas oublier.
D'accord.
Et c'est votre âme généalogique qui vous permet d'avoir un droit foncier.
Mais vous aviez dit avant l'antenne que vous aviez marre qu'on dise que vous descendez d'Abraham. Et ça vous a poussé à chercher.
Bien sûr. Voilà. Une des raisons. Voilà. Et j'en avais vraiment marre où les gens nous disent qu'on est des ancêtres d'Abraham. Bon, je ne sais même pas où il est intérêt, ce prestigieux monsieur. Mais ce qui est sûr, mes ancêtres que j'arrive à connaître, je connais leur tombeau.
Vous savez où ils sont enterrés. Merci beaucoup, Dela, pour ce témoignage depuis Lomé. Et nous prenons un autre invité, un autre auditeur, David de Nairobi. Bonjour, David.
Bonjour, madame. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Bonjour et bienvenue. Vous avez un témoignage à nous raconter, on vous écoute.
Bien sûr, ici à Nairobi, depuis Kenya, nous travaillons dans ce domaine de la généalogie et je pense que c'est vraiment très important pour moi-même, par exemple.
Oui.
En faisant la généalogie, j'ai découvert ma famille jusqu'à la 4e et je suis presque à la 5e génération déjà, vous voyez un peu?
Vous, ça a été un peu plus simple parce que vous travaillez déjà dans la généalogie, vous travaillez, c'est votre domaine un peu.
Bien sûr, c'est mon domaine et nous recevons des gens presque chaque jour, ils viennent et nous leur aidons à retrouver leur généalogie en ligne et avec des bibliothèques aussi. Alors, c'est une très bonne expérience pour moi. Ça m'aide un peu à comprendre beaucoup plus sur ma famille et avoir un amour profond pour eux et comprendre d'où est-ce que je viens, mon nom et ce que cela apporte à ma vie vraiment. Ça me donne ce qu'on appelle en anglais « sense of belonging ». Je suis vraiment content d'appartenir.
Vous avez appris des choses sur vos proches.
Bien sûr.
Et vous êtes à quelle génération aujourd'hui?
Je viens de finir la 4e génération et j'ai déjà commencé la 5e génération.
Et est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent, qui viennent vous voir pour en savoir plus sur leurs ancêtres?
Les jeunes qui viennent, beaucoup de jeunes qui viennent avec leur famille. Ils sont initiés par leurs parents et c'est ainsi qu'ils peuvent venir. Mais ils ne sont pas vraiment associés à ça. C'est beaucoup plus les pères de famille, les mères, et quand ils veulent venir avec leurs enfants, ils peuvent venir.
Mm-hmm.
Mais les jeunes ne se donnent pas vraiment à la généalogie actuellement.
Vous avez des difficultés parfois pour remonter à certaines générations. Quelles sont ces difficultés?
Par exemple, la collecte de données, parce que la généalogie a deux grandes étapes. L'identification de nos ancêtres, Et le keeping track en anglais, donc garder les traces de ce que nous faisons.
Mmh.
Alors l'identification est un très grand processus. Parfois nous devons le faire avec des interviews face à face, avec les membres de famille ou autre chose. Et certains d'entre eux ont des langages, nous avons des barrières quand ça revient à la langue. Certains qui ne connaissent pas l'anglais, le français ou les langues locales et qu'on a des difficultés pour se comprendre.
Oui.
Alors l'autre difficulté c'est aussi l'accès à l'internet pour beaucoup d'autres personnes.
Marie-Odile Mérignac, là, il parle de certaines difficultés, parfois les barrières de la langue. Ici, par exemple, quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer quand les gens viennent? Ils rencontrent aussi des difficultés?
Alors, on peut rencontrer des difficultés si on est un petit peu loin dans le temps. On a parfois du mal à déchiffrer les écritures, même si elles sont dans sa propre langue.
Oui.
L'orthographe des noms de famille bougeait beaucoup autrefois. Phonétiquement, ça restait à peu près la même chose, mais bouger. On a eu le cas d'un auditeur qui a même dit que son nom avait complètement changé. On peut avoir parfois quelques surprises comme ça qui rendent la recherche plus compliquée. Et puis, à partir du moment où la personne veut sortir des dates et des lieux pour chercher réellement la biographie de son ancêtre, elle va explorer d'autres sources et elle n'est pas forcément à l'aise pour le faire.
David, vous avez une dernière chose à ajouter rapidement?
Oui, très rapidement. Je veux juste expliquer. Par exemple, au début, on parlait de mormons.
oui,
ceux
oui.
qui font un grand travail, par exemple. Alors, ils sont nos partenaires dans ce que nous faisons. Et récemment, nous avons reçu une lettre de leur part demandant aux gens de leur appeler par le vrai nom, l'Église de Jésus-Christ au sein des derniers jours. Alors, si on peut utiliser ce nom-là, ce sera très bien pour leur identifier.
Mais, ils étaient plus intéressés par toutes les données.
Oui, ils sont vraiment, ils sont des grands partenaires dans ce que nous faisons. Ils ont des outils très nécessaires. Deux jours, nous avons d'ailleurs participé à une réunion aux États-Unis sur l'histoire familiale. Ça s'appelle Root Tech.
Ils vous aident plus avec les outils pour pouvoir récolter les informations, c'est bien cela?
Bien sûr, la collecte de données et ils sont des merveilleux partenaires. Donc. Okay.
Merci beaucoup, David, de Nairobi. Nous avons un autre auditeur. Il est de Kaya, au Mali. Il s'appelle Ali. Bonjour, Ali, et bienvenue.
Alors, bonjour, madame. Bonjour à tous les plateaux.
Bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour.
Vous nous dites que vous êtes contre cette fouille. Pourquoi?
Donc, je ne suis pas complètement contre la fouille, l'arbre généalogique, mais je suis contre l'usage que les gens en font de cette recherche.
Quel usage, par exemple?
Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui en font un mauvais usage, qui font revivre des tensions sociales entre les peuples du même territoire. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. En Bliens-Soninké, aujourd'hui, il y a un véritable problème entre le peuple. Parce que il y a des gens qu'on veut faire revivre le passé, l'esclavage. Donc, il y a eu... Il y a beaucoup de débats autour de cette question de l'esclavage en milieu soninké. Donc, il y a certains qui sont tapés, frappés, parce qu'ils ont refusé de se soumettre aux anciens maîtres.
Mais ça, ce n'est pas de la recherche généalogique. Ça, c'est plus les traditions anciennes qui existent. Ce n'est pas de la généalogie.
Donc, ça fait partie de la généalogie, mais aussi, même avec la généalogie, souvent, quand on fouille, on va voir que dans la plupart des cas, c'est flou. C'est-à-dire, une fois que vous remontez un peu dans le temps, vous voyez que dans la chaîne de recherche ancestrale, sera rompue.
Chers invités, là, on a Ali qui nous dit que parfois, les résultats, les données, on en fait un mauvais usage. Certaines personnes n'utilisent pas bien. C'est un peu transformé, la tradition, elle est un peu déformée parfois, mais je pense plus que ce n'est pas le domaine vraiment de la généalogie, qu'en pensez-vous?
Oui, parce que la généalogie, on l'a fait pour soi et pour sa famille essentiellement. Donc après, quel usage pourrait en faire d'autres? Alors, j'ai en tête quand même Madagascar, où vous avez des noms de famille qui vous rattachent socialement à une élite, ou aux plus pauvres de la société. Donc effectivement, peut-être qu'à ce moment-là, il peut y avoir des tensions sociales localement dans une région, parce qu'on va dire à quelqu'un, voilà, toi tu portes le nom qui correspond à une mauvaise famille, et toi tu portes un nom qui correspond à une bonne famille. Mais je pense que c'est du dévoiement de la généalogie. On l'utilise dans ce cas-là à des fins politiques ou sociales, ça n'est plus de la généalogie.
Oui. Merci beaucoup, Ali.
Voilà, merci.
Merci à vous. Et nous avons eu une auditrice, Chantal de Londres. Elle a une famille baobab, nous dit-elle. Bonjour, Chantal.
Bonjour.
On vous écoute.
Ouais, comme je disais, chez moi, j'ai une famille baobab.
C'est quoi une famille baobab?
C'est qu'on a tellement de mariages, de naissances. Plus il y a de la polygamie dans ma famille, hein. Donc du coup c'est assez difficile de remonter l'arbre généalogique.
Oui.
Et en fait récemment au décès de mon père, j'ai posté justement l'événement sur Facebook et les personnes qui n'avaient pas pu venir au funérailles nous ont souhaité bon courage. Et puis à chaque fois,
est-ce que vous avez déjà essayé de remonter votre arbre généalogique?
Mon père avait commencé et on n'a pas retrouvé le document. Donc du coup, je reprends le document, la tâche.
Oui.
Et donc on repart de zéro à retracer qui sont les grands-parents, jusqu'aux grands-parents, ça va. Et après, ça devient beaucoup plus difficile parce que il faut remonter derrière. Donc, il n'y a pas forcément les documents.
Et là, vous aviez dit que vous avez perdu le document de votre père. Vous repartez de zéro, du coup.
Voilà, je repars de zéro. Donc, on va refaire appel aux cousins, cousines. On a certains gris aussi dans la famille. Donc, du coup, on va tout recommencer.
Oui. Merci beaucoup, Chantal, pour ce témoignage. Chantal de Londres, merci beaucoup de nous écouter. Chers invités, vous avez une réaction par rapport à... Parfois, on a quelqu'un qui a déjà commencé, comme le cas d'une autre auditrice, et après, on perd tous les documents.
Ça, c'est toujours dommage. C'est quand même vraiment dommage de se dire il avait tout fait, et puis on ne remet pas la main sur le document.
Et parfois, on a des familles, elle parle de famille. Oui, allez-y.
Alors, moi, je dis à nos membres, mais partagez vos informations. Partagez vos informations.
Avec le reste de la famille.
C'est, vous partagez avec le reste de la famille, et souvent, ça vous fait une sauvegarde. Souvent, on a des personnes qui ont effectivement tout perdu, et c'est toute leur mémoire, tous leurs travaux qui sont disparus. S'ils l'avaient partagé, ce serait maintenu. Et sur Genève, d'ailleurs, on a un testament généalogique, c'est-à-dire qu'après sa mort, on dit ce qu'on souhaite faire de ses travaux.
Merci beaucoup, chers invités, d'être venus nous parler de ce sujet très intéressant, très passionnant. On a encore d'autres aspects qu'on n'a pas pu aborder. Par exemple, l'ADN, c'est encore un autre domaine de la généalogie. Marie-Odile Merniak, vous êtes généalogiste et co-organisatrice du Salon de la généalogie qui a lieu les 5, 6 et 7 mars, bientôt à Paris. Jacques Lemarois, président de Généanet, le plus gros site européen de généalogie. Merci d'avoir participé à notre émission. Merci d'être venu
nous
voir. Et je vous dis au revoir en musique.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
Plutôt pas de musique, nous continuons avec notre reportage. Chaque année, 600 personnes meurent dans la rue en France. Alors, pour la deuxième année consécutive, la Fondation Abbé Pierre a organisé sa fameuse cérémonie des pics d'or, une cérémonie qui récompense ironiquement les pires dispositifs anti-SDF à Paris. Notre reporter Inès Edel Garcia a assisté à cette drôle de remise de prix qui cherche à sensibiliser le public au mobilier urbain hostile aux sans-abri.
Je déclare ouverte cette cérémonie des pics d'or 2020.
Ce qui me choque, c'est qu'il y a un gars qui doit se lever le matin et aller au boulot. Et son boulot, c'est de designer ou d'imaginer une espèce de bit en métal, une espèce de banc déformé, un truc, rien que pour faire chier les gens qui vivent dans la rue. Bon. Le vainqueur est l'esprit de famille.
Je m'appelle Christian Page, j'ai 47 ans, j'ai vécu 4 ans dans la rue et donc j'ai été personnellement victime de ce qu'on appelle le mobilier urbain anti-SDF qui est destiné à chasser les personnes qui sont sans abri des centres-villes, dont Paris où je réside. Paris a la réputation de la ville lumière par exemple, ça fait pas propre de voir quelqu'un dormir sur les Champs-Élysées. On lui dit d'aller voir ailleurs ou alors on dispose d'un mobilier qui... empêche toute personne sans abri de dormir ou de s'asseoir à certains endroits.
Et alors quand on est SDF et qu'on voit du jour au lendemain qu'on a déployé un dispositif anti-SDF qui nous vise directement, qu'est-ce qu'on ressent ? Dans quel état d'esprit on est ?
Non, oui, t'es énervé, mais l'important c'est d'avancer. Bon, c'est vrai, moi plusieurs fois je suis arrivé à des endroits où j'avais l'habitude de dormir et là, boum, un bac à fleurs. Donc, moi, j'ai toujours un plan B sous le coude. Fait chier, je peux pas dormir là, mais je marche un quart d'heure et j'ai un autre endroit où je peux dormir.
Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce mobilier urbain un peu répulsif ?
C'est quand même assez rare maintenant en France quand une mairie pose du mobilier, parce que c'est pas bon en termes d'élection. Mais par contre... La plupart du mobilier et quasiment tous qui sont nominés ce soir sont dans le domaine privé. Alors là, les pouvoirs publics et les mairies, elles peuvent pas faire grand-chose. Ça dépend du bon vouloir des propriétaires pour le mettre ou pour l'enlever. On est en train d'étudier avec la Fondation Abbé Pierre au niveau juridique pour voir comment on pourrait modifier éventuellement... le code de l'urbanisme pour obliger les propriétaires à déclarer ce qu'ils veulent modifier. parce qu'un propriétaire, il vous dira « je vais toujours embellir mon immeuble ». Mais en fait, il va mettre des bacs fleurs. C'est pas vraiment pour l'embellir, c'est plutôt pour chasser le SDF.
Le lauréat est sur les rails. Applaudissements, s'il vous plaît.
Ex aequo, salade niçoise et sans fin niçoise. On peut les applaudir bien fort. Bravo, les amis.
Et le gagnant est les champignons de Paris. Bravo.
Je suis Manuel Domergue, je suis directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. L'Épic d'Or, c'est une cérémonie qui vise à récompenser les pires dispositifs urbains anti-SDF, qu'il s'agisse d'équipements, c'est-à-dire des pics, des grilles, des rochers, ou des dispositifs légaux, par exemple des arrêtés anti-mendicité, anti-glanage, anti-bivouac. Et donc on a voulu, ironiquement, montrer en fait l'absurdité de cette situation. Il y a des gens à la rue, au lieu de les aider, on va dépenser de l'argent pour les empêcher de dormir dans la rue. Et au final, on s'est aperçu que si on ne le disait pas, si on ne le rappelait pas, et notamment avec l'arme de l'humour, on s'y habituait.
Ces dispositifs anti-SDF, on les observe depuis combien de temps? Est-ce que c'est une tendance récente?
Ce qui est sûr, c'est qu'on en trouve beaucoup, sans surprise, là où il y a des sans-domiciles. Parce que le but, justement, est de s'en prémunir. Il y a de plus en plus de sans-domiciles en France. En 2001, il y en avait 80 000. En 2012, il y en avait 140 000. Donc on voit qu'il y a une augmentation très forte. Aujourd'hui, on n'a pas de chiffres parce que l'État ne veut plus faire d'enquête sur les sans-domiciles. Mais on sait qu'il y en a sans doute 200 ou 250 000. Et donc, essentiellement, dans les grandes villes, là où il y a des flux migratoires, là où il y a une tension immobilière très forte, Paris, Lyon, Marseille, etc. Et c'est là qu'on retrouve de manière surreprésentée ces dispositifs anti-SDF.
Les dispositifs anti-SDF, c'est une spécificité française ?
Non, ce n'est pas une spécificité française. C'est pas, on en retrouve un peu dans tous les pays, en tout cas, qui sont pas assez intelligents pour avoir réglé leurs problèmes de sans-abrisme et pas assez généreux pour éviter ce type de dispositif assez honteux. Las Vegas, par exemple, envoie en prison les gens qui sont sans domicile. Dans le canton de Vaud, en Suisse, on a une amende quand on mendie dans la rue. Donc on peut faire encore pire en France.
Quelle solution on a finalement pour lutter contre ces dispositifs anti-SDF et pour leur permettre de se réinsérer, de retrouver un logement et de retrouver leur dignité tout simplement?
On a essayé de promouvoir auprès des candidats aux municipales, et 300 se sont engagés, promouvoir les droits des personnes sans-abri. Donc il y a une déclaration des droits des personnes sans-abri, 14 droits qui sont nos droits à tous, mais en particulier pour les personnes qui n'ont pas de logement, le droit de vote, le droit d'avoir accès à l'hygiène, à des toilettes publiques, le droit à une adresse, à une domiciliation, même quand on n'a pas un logement. Et puis le droit à avoir un logement, évidemment. C'est le premier des droits quand on est à la rue. Donc pour ça, il faut une politique ambitieuse. Elle n'est pas simple, mais elle est tout à fait réaliste. Des villes y parviennent. Ça veut dire produire des logements sociaux, des logements très sociaux, avec des niveaux de loyer qui soient accessibles pour les personnes qui sont au RSA, donc qui gagnent à peu près 500 euros par mois. Et puis attribuer ces logements sociaux aux personnes qui sont à la rue, parce que souvent il y a des logements sociaux dans à peu près toutes les villes, mais ils ne sont pas toujours attribués en priorité aux personnes qui sont à la rue. Parce qu'il y a des formes de préjugés d'un peu tout le monde pour ne pas attribuer ces logements aux personnes sans domicile, parce que ces personnes sans domicile ne seraient pas capables d'habiter ce logement. Donc il faut lever tous ces freins qui sont des freins financiers, des freins parfois d'urbanisme ou des freins qui sont dans la psychologie de tout un chacun.
7 milliards de voisins.
RFI, on est ensemble.
7 milliards de voisins.
Quand on sera 8 milliards, tu vas dire quoi?
J'ai refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Cette milliards de voisins, c'est la fin de l'émission aujourd'hui. Demain, nous intéressons au féminisme dans le monde en 2020. Le débat sera passionnant avec trois femmes qui seront en plateau avec nous. Et merci à toute l'équipe, Romain Dubrac, Cécile Lavelot, Zirid Azeroual, Alix L'Hospital et notre stagiaire Idrissa Kone. Merci de nous avoir suivis. À demain. Je vais